Radio Champo.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Champo sur Radio Albigès. Pour commencer cette nouvelle saison, on vous propose une émission un peu particulière aujourd'hui, une balade sonore à la découverte des oiseaux qu'on peut observer à Albi. C'est un reportage réalisé jeudi 24 septembre 2020 à l'occasion d'une sortie ornithologique organisée par le groupe jeune de la LPO Tarn, la Ligue de Protection des Oiseaux. Cette balade vous sera commentée par Zoé Lemaillot, qui est à l'origine de la création du groupe jeune de la LPO, et Evelyne Abert, présidente de la LPO Tarn. Allez, c'est parti, on démarre cette balade sur le campus Champollion avant de rejoindre le parc Rochegude à quelques centaines de mètres de la fac.
Donc en fait, la LPO, c'est une vieille association qui a été créée il y a plus d'un siècle, et donc en 1912, et c'était avant pour mettre un terme au massacre des macareux moines en Bretagne, c'est des petits oiseaux marins, et c'est devenu l'emblème de la LPO. Et donc du coup, la LPO après s'est développée et maintenant dans plein de départements différents. Et donc là, la LPO Tarn, ça fait 30 ans qu'elle est sur le département.
On est à 38.
Ah oui, c'est vrai.
Disons qu'au départ, c'était un groupe, le GOT, groupe ornithologique tarnais, et puis qui s'est rattaché donc à la LPO en 1992, je crois. Et donc ça va faire, dans pas longtemps, on va fêter les 40 ans.
Oh, c'est vrai. Donc voilà, et donc du coup, la LPO Tarn fait plein d'activités, de sorties nature. Je pourrais vous passer le programme des activités de la LPO Tarn, là, du coup, de ce semestre. Et elle gère aussi une réserve naturelle, la réserve de Cambounet-sur-le-Sort. C'est à côté de Castres, où c'est des étangs où on voit pas mal d'oiseaux d'eau. Et après, là aussi, un centre de soins à Castres, où elles soignent plutôt les rapaces blessés. Voilà. On va commencer la sortie par un petit tour de la fac pour voir un peu les oiseaux, comme ça qu'on voit tous les jours, mais en fait, on n'y prête pas vraiment attention. Donc c'est pour essayer de mettre des noms sur les oiseaux que vous voyez certainement tous les jours. Bon, sur la fac, c'est vrai que l'espèce qu'on voit le plus souvent, c'est le pigeon bisé. Et en fait, ce pigeon bisé, il est domestique, c'est un pigeon bisé féral. Mais il faut savoir qu'avant, il y avait une véritable espèce de pigeon bisé, même elle existe toujours. Et elle était plutôt du côté de la Corse, sur les falaises de la Corse, elle nichait là-bas. Et en fait, il y a eu beaucoup d'hybridation et en fait, du coup, c'est devenu le pigeon bisé qu'on connaît maintenant. Qui s'est développé et qui en fait est venu dans les villes et tout ça, et donc maintenant c'est une espèce opportuniste mais qui aime toujours bien les bâtiments en hauteur comme ça, qui lui rappelle un peu les falaises d'avant.
Ça compte pas.
La meilleure période pour observer les oiseaux.
Et c'est quoi la meilleure?
La meilleure, c'est au printemps et le matin. Au printemps. Voilà,
oui,
voilà, parce
ça.
Que.
On a tout bon.
Parce que là, c'est vrai que du coup, en ce moment, on est en plein dans la migration des oiseaux. Donc, tous les oiseaux qui sont venus ici du début du printemps là jusqu'à là maintenant, en fait, pour se reproduire, pour faire des petits et les élever, et bien là, du coup, ils sont tous en train de partir. Donc, tout ce qui est hirondelles.
À midi, dans mon jardin. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Le cri du Pouillofitis, qui est un oiseau qui niche pas chez nous, il niche plutôt dans le nord de la France. Et donc il est en migration.
Il y a un truc là-haut, là, sur le toit, là, non ?
C'est une pie, non ?
Ah oui, tout à fait, oui, mais c'est une pie. Une pie bavarde, oui, c'est bien.
Il y en a plusieurs sortes de pies.
De pies, oui. Là, nous, on peut. Bon, là, celle-là, c'est la seule qu'on peut voir en France. Mais après, en Espagne, on peut voir une pie bleue. Parce qu'elle a la queue bleue. C'est très joli. C'est une pie bleue. Wow. Tiens, regarde. Je l'ai lavée là. Là, voilà, elle est comme ça, la pie bleue.
Waouh.
Avec les ailes brûlées et la queue toute bleue.
Et du coup, c'est laquelle qu'on dit la pie voleuse?
Et c'est elle, c'est la pie bavarde. Voilà, okay. Elle a tout.
Elle a tout pour elle,
ouais, ça.
Et c'est vrai, hein, du coup, enfin, genre, il y a vraiment des...
Qu'elle prend les objets...
Ah, c'est faux, ça. C'est non. Totalement faux.
Non, c'est une légende urbaine.
Ah oui, tout à fait, mais c'est pas que urbaine. Hein. Il y a énormément d'idées reçues sur les animaux. Et en général, la pie, elle est mal aimée, ce qui est c'est un désespoir pour moi. Peut-être parce que l'homme, il n'aime pas quand c'est trop intelligent. Parce que la pie a une très grande intelligence. Il y a des expériences qui ont été faites où elle montre qu'elle a conscience d'elle-même. Et ça, c'est un des derniers bastions de l'humain qui croit qu'il est différent des animaux parce qu'il a conscience de lui-même. Mais la pie en est capable. Et puis la pie, elle va être aussi prédatrice, par exemple, d'autres oiseaux pour nourrir les petits. Et ça, en général, les gens n'aiment pas, mais pourtant, c'est la nature. Hein. Manger, être mangé, ça fait partie de la nature. L'écureuil fait la même chose. On aime beaucoup l'écureuil, mais l'écureuil, pour nourrir sa nichée, ben, il va aller chercher dans les nids, il va aller chercher les petits oisillons, des œufs ou des oisillons pour nourrir sa nichée. Voilà. Et en plus, elle est très belle, la pie.
Les écureuils, c'est pas si mignon que ça, en fait.
Mais voilà, il faut pas dire c'est bien, c'est mal. Voilà, c'est l'histoire de c'est bien, c'est mal. C'est
vraiment... des valeurs humaines.
Ouais, ouais, tout à fait. Je crois que si on est dans ce registre-là, je pense que les humains, ils ont beaucoup à se reprocher. Beaucoup plus que la pie. Il y en a qui ont des beaux faucons là.
Ça s'appelle le vol du Saint-Esprit, ça.
C'est un type de vol que fait. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui font ça.
Et c'est
un type de vol qui n'est pas le même que le colibri. Parce que, le colibri, il a un mouvement avant-arrière, je crois, comme ça. Et le vol du Saint-Esprit, c'est un vol vraiment sur place. Mais les ailes vont moins vite, par contre.
Ok. Et ça, c'est extraordinaire à voir. Quand on le voit après aux jumelles, on voit donc les ailes qui s'agitent très vite. Et vous voyez la tête. Alors, elle est dirigée vers le bas parce qu'il est en train de regarder s'il n'y a pas un petit mammifère. Et il est la tête ne bouge pas d'un iota. Hein. Et en fin de compte, ce qu'il repère, donc les petits rongeurs. Et pour les repérer, il utilise l'ultraviolet. Nous, on ne sait pas percevoir l'ultraviolet. Mais les petits rongeurs, les petits mulots, etc., quand ils se déplacent, ils font des traces d'urine, et cette urine, elle est sensible à l'ultraviolet. Donc ils repèrent en fin de compte les traces dans la... Nous, on ne voit rien de tout ça. Hein. C'est très chouette de le voir ici, dans un milieu urbain, parce que c'est plutôt un oiseau des campagnes. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ça veut dire qu'il trouve de quoi se nourrir. Et donc c'est un faucon.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, faucon cresserelle.
Et c'est pas cela qu'à un moment il y avait des gens qui voulaient les utiliser pour chasser les pigeons justement dans les grandes villes.
Ah non, ça c'est le faucon
pèlerin.
Ah
oui, ok. Oui.
Et celui-là on en a donc sur la cathédrale d'Albi.
Ok.
On a un nichoir qui a été installé par la LP Autarne justement. Ah. Et donc pendant une dizaine d'années il y a eu un couple.
Même plus que ça parce que la première installation ça date. L'installation du nichoir, je crois que c'est 1998. Et deux ans après, il y a eu l'installation d'un couple de faucons pèlerins. Et il se trouve que la femelle qui y est encore actuellement, c'est toujours la même que depuis le départ. Elle a changé de mâle apparemment. Hein. Mais bon, le problème, c'est que comme elle est vieillissante, ça fait 2 ans qu'elle produit des œufs, mais sans que ça donne rien du tout. Alors que les années avant, c'était chaque année 4 jeunes à l'envol. Hein. Ah, ça a été formidable. Formidable. Et là, en ce moment, c'est très chouette parce que le mâle est très fidèle à sa femelle. Il y a d'autres femelles qui tournent autour pour prendre la place, parce que la place est exceptionnelle sur le clocher de la cathédrale Sainte-Cécile. Et donc, elles tournent autour parce que c'est un site de choix. Seulement, le mâle les chasse, non ? Il est fidèle à sa femelle, même si elle ne produit plus rien.
C'est beau.
Oui, oui. Bon, on se trouve ce genre de choses dans la nature.
C'est romantique.
Et on va observer toutes les espèces de canards. Le mâle, comme son nom l'indique, col vert. Donc il a le cou qui est totalement vert, avec des reflets en plus très jolis. Et les femelles, elles sont plutôt brunes. En fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les espèces de canards domestiques, en fait, elles descendent au final du canard col vert. Et du coup, après, bon, avec les hybridations, c'est pareil. Et du coup, ça a donné d'autres couleurs que ce que le canard col vert sauvage voilà, avec le couvert. Alors on va continuer.
Tu le connais le petit là?
Quoi?
Le petit, tu le connais là?
Je sais pas ça, ce que c'est. Non, ça c'est une femelle de. C'est canard. Canard mandarin.
Mandarin? Oui, c'est possible.
Oui.
Parce que le parc aussi dit est un refuge LPO. Donc ça c'est un programme de la LPO qui s'adresse aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux établissements, hein, et on respecte une charte de protection de la nature, voilà. Et puis sur la commune, donc il y a trois sites refuges LPO, le parc Rocheguide, il y a la Mouline, là, le long de la Échappée Verte, et le troisième c'est le centre équestre de la Vasière. Et donc il y a eu tout un plan de gestion qui a été fait, des préconisations, et on travaille en partenariat avec la ville d'Albi sur ces sites-là.
Et du coup, ça implique quoi quand c'est un refuge LPO Est-ce que le lieu il a des obligations à respecter ou des choses comme ça?
Alors oui, déjà, il y a une charte qui nous relie en quatre points. C'est un, je crée des conditions propices pour l'accueil de la faune et de la flore. Deux, je n'utilise pas de produits chimiques. Ceci dit, bon, donc, depuis la loi Labbé, évidemment, plus d'utilisation de pesticides. Alors là, on a entendu un chouka. Alors, c'est un très, très bel oiseau, le chouka. C'est comme une corneille, il a un habit noir mais avec la tête grise et un œil vert jade absolument magnifique. Et moi j'ai repéré au cri, vous l'avez entendu? On l'entendra peut-être tout à l'heure. Ça s'écrit dans le sens. Hein. Et là on entend autre chose, pour moi c'est des tourneaux sans sonnet. Parce qu'il imite beaucoup les autres oiseaux. Ce qu'on entend, c'est une sorte de petit sifflement là.
Ça c'est le chansonnet?
Ouais, c'est sûrement le chansonnet. Ouais.
Celui qui vient de passer, c'est la mésange. Mais là, regarde, ça, c'est les étourneaux là-haut, là. En noir, c'est plutôt des étourneaux. Ouais.
La pauvre, on fera une sortie en espérant qu'il n'y ait plus toutes ces restrictions. Enfin, que ce soit, on amènera la linette, les jumelles, hein, pour que tout le monde puisse en profiter. Hein.
Ouais, du coup, est-ce que c'est conseillé ou pas de nourrir les canards dans les jardins?
Alors, surtout pas.
Pourquoi?
Surtout pas. En particulier, souvent, on nourrit avec du pain.
Ouais.
Alors, le pain, les oiseaux n'ont pas de système digestif pour pouvoir le digérer. Hein, ils ne supportent pas le gluten, souvent c'est salé. Et chez ce qu'on appelle les anatidés, les canards, ça provoque des déformations des ailes, qu'on appelle les ailes d'ange. Ce qui fait que les oiseaux ont les ailes déformées, donc ne peuvent plus voler, et donc à terme meurent. Donc le pain, alors strictement interdit. Hein.
Et alors, est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? Parce que c'est un jeu hyper familial de donner à manger aux canards dans les pâtes.
Mais oui, je sais bien. On peut le remplacer par le plaisir de l'observation, des comportements, des choses comme ça. Voilà.
Okay. Est-ce que ici ils sont nourris du coup?
Alors, ça... non, c'est marqué, c'est interdit justement.
Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de leur nourriture ou est-ce qu'ils vont vraiment chercher eux-mêmes, gratter la terre? Je sais pas.
D'accord. Oui, parce que là, il y a assez. Enfin, comme ça, les petits étangs, là, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils sondent la surface de l'eau, même après la vase et tout ça. Parce que c'est pour ça qu'ils ont un bec comme ça, très allongé. Mais en tout cas, là, il y a certains oiseaux qui sont en train de muer. Donc en fait, ils vont retrouver leurs plumes, qui perdent leurs anciennes plumes. Et donc, du coup, les nouvelles plumes vont pousser petit à petit. Et ça va leur faire leur plumage nuptial, leur plumage, en fait, pendant la saison des amours, c'est le plumage qu'ils ont, comme ça, bien vif, avec de jolies couleurs, pour séduire la femelle. Et là, vous voyez, l'oiseau qu'on voit là, qui est en train de se gratter, les plumes bleues qu'il a sur l'aile, on appelle ça un miroir. Et c'est souvent, on voit souvent ça chez les femelles.
Pourquoi on appelle ça un miroir?
C'est comme ça, c'est l'appellation comme ça, bleu, je pense que ça rappelait un peu. Voilà, ça reflète un peu. Après, c'est les reflets, justement, le vert, on le voit comme ça par une certaine lumière, mais oui, après, ça peut faire un peu comme du bleu.
Ok, c'est de l'irisation. Ouais. Les plumes, en fait, elles font de l'irisation contre de la lumière. Et ça, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont ça. Comme en fait, les plumes, c'est des tubes très fins. Et creux, et souvent en fait la lumière à l'intérieur elle fait des réfractions et en fonction des angles, etc. Donc tu as beaucoup d'oiseaux qui en fait sont pas colorés, ils sont irisés. Typiquement les colibris sont pas verts ou bleus ou jaunes, ils sont irisés et donc en fonction de comment tu les regardes, bah c'est vraiment la réfraction de la lumière dans les plumes qui change la couleur. Voilà, il y en a plein des comme ça. Les canards, c'est le cas. Enfin, la tête du col vert, c'est ça.
Et chez les pigeons bisés aussi, on retrouve
ouais,
ça.
Exactement.
Comme
ouais.
ça, là, vous voyez, là, sur le cou.
Sur le cou, on
voit. Ouais, exactement,
le vert, vert.
Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, et aussi le rose qu'on voit parfois, bah voilà, c'est
et
ça.
Et t'as la pie bavarde aussi qui fait ça.
Oui,
t'as des espèces de reflets bleus électriques, mais ça se voit pas trop, faut qu'elle décolle et qu'il y ait de la lumière pour que ça soit bien étalé. Et t'as des reflets bleu-vert, ouais, super vif.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Radio Champeau sur Radio Albigès. Aujourd'hui, balade sonore à la découverte des oiseaux d'Albi. Un reportage réalisé le 24 septembre 2020 lors d'une sortie organisée par la section tarnaise de la Ligue de protection des oiseaux.
D'habitude, au fond, là, sur la petite île, il y a un héron cendré, de temps en temps, qui vient, qui s'arrête et qui vient ici pour chasser. Mais là, je pense pas qu'il y soit.
Il y a un martin pêcheur juste là, derrière.
Dans l'arbre, là. Au milieu des branches. Personne le voit. Hop, il vient de s'envoler.
Ah oui. Ah ouais.
Vous avez vu l'éclair bleu?
Ouais. Ah ouais.
Top.
Il passe derrière.
Ouais.
C'est ouf, c'est vraiment magnifique quoi.
Ah, le martin pêcheur, c'est incroyable. Oui. J'adore ce gaffe.
Oui, oui. Surtout en pleine ville, c'est pas courant.
Hein. Bah, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le martin pêcheur, bon, on ne s'attendrait pas à le voir ici. Hein. Et en fin de compte, il se trouve que pour peu qu'il y ait ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir, bon, évidemment, il ne va pas nicher là.
Hein non.
Voilà. Mais.
Il est de passage.
Bah là, je pense qu'il vient chercher, chercher peut-être à bouffer. Hein,
il y a des poissons d'élevage, il y a des petits poissons rouges dans le lac.
Parce que du coup, lui, il se nourrit de poissons.
Ouais, lui, il se nourrit de tout petits poissons. Et il plonge, il est au-dessus de l'eau, il plonge comme ça dans l'eau super vite. Et il a une forme tout effilée, tout aérodynamique, avec le bec très long, comme ça, pour pénétrer dans l'eau très vite sans que ça faire de plat, quoi. C'est un truc vachement connu, c'est quand ils ont voulu améliorer les trains au fur et à mesure. Il y a un moment où en fait les trains, quand ils rentraient dans les tunnels, ça faisait une compression d'air et ça faisait un énorme bang et ça fragilisait les structures et ça faisait énormément de bruit. Et du coup ils ont étudié comment ils pouvaient améliorer et la solution ça a été de copier le bec du martin pêcheur. Alors voilà, on parle souvent le martin pêcheur en fait, c'est les oiseaux marins de manière générale en fait, voilà,
la classe.
Pour diminuer le bruit. Et de l'autre côté là, je la vois plus, mais il y avait la gallinule poule d'eau qui se promenait.
La gallinette cendrée.
Non, la gallinule poule d'eau, ouais, c'est...
que s'il y a une gallinette cendrée...
Avec sur... la poule d'eau la qu'on poule pense d'eau. Comme ça, qu'on a tous dans la tête, un oiseau tout noir avec le bec blanc. Donc ça, c'est l'image qu'on a de la poule d'eau, mais en fait, ça, c'est une autre espèce. Ça s'appelle la foulque macroule. Et ici, la gallinule poule d'eau, elle est noire, pareil, sauf qu'en fait, elle a le bec jaune, et elle a aussi, sur le front, sur la calotte, on appelle ça, chez les oiseaux, un du rouge.
Vous l'avez sur le petit bouquin, là.
Ouais.
On a observé sur une application qui s'appelle Naturaliste. Que vous pouvez aussi avoir sur vos smartphones. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que ça permet d'avoir une connaissance pointue des espèces qui sont à un endroit donné.
Et ça marche aussi pour les oiseaux, mais aussi pour toutes les espèces, les mammifères, les reptiles, les libellules.
Les papillons,
il y a vraiment, on peut rentrer tout, oui, voilà, tout ce qu'on voit dans la nature, on peut le noter. Et ça permet aux scientifiques, après, d'avoir plein de données, de pouvoir faire des atlas, mais aussi des programmes de conservation. Ça permet de savoir exactement que telle espèce est à un endroit. Et donc, si par exemple cet endroit-là, c'est à côté d'une réserve naturelle, et bien, on peut se dire, comme c'est une espèce protégée, peut-être, essayer d'étendre la réserve pour que ça puisse inclure cette espèce-là.
Comment tu dis que ça s'appelle cette application ?
Naturaliste. Comme un naturaliste, mais sans le à la fin.
En anglais, quoi.
Voilà, oui, c'est ça. Voilà, tout simplement.
Parce que là, il y a différents éléments qui sont réalisés pour la ville d'Albi. Savoir que le parc Préchégut, c'est un parc qui se trouve en plein cœur de ville et qui est un parc ancien, avec tout un historique, des parcs comme on faisait autrefois. Mais il se trouve qu'il y a une gestion, ce qu'on appelle une gestion différenciée du parc, qui est absolument remarquable. Alors en particulier ici, alors ça ne se voit pas parce que c'est dans cette saison, mais ici il y a des orchidées qui poussent. Et normalement, l'espace n'est fauché que lorsque les orchidées ont fini leur... lorsqu'elles ont séché, qu'elles ont émis des graines. Après, ici, on voit des troncs morts. Donc, c'est des arbres qui ont dû être abattus, sans doute, parce qu'on est quand même dans un parc. Donc, si un arbre est quand même menaçant pour les passants, ils sont quand même obligés de l'enlever. Par contre, ils n'évacuent pas les troncs et les laissent se décomposer. Et il y en a un autre là-bas qui a été gardé, ce qu'on appelle en chandelle, et qui abrite une espèce de coléoptère qu'on appelle le grand capricorne, qui est une espèce protégée, et qui joue un rôle fondamental pour, comme beaucoup de coléoptères de cette famille-là, pour le recyclage du végétal.
Le grand capricorne, c'est protégé ?
Ah oui.
C'est
interdit de détruire. Ah oui.
C'est quand ils sont en train de bouffer un arbre qui menace de tomber sur notre propre maison. Comment on peut,
Alors, disons que c'est pas les grands capricornes qui font tomber l'arbre, c'est que l'arbre il est vieillissant, en train de mourir, et donc les capricornes, comme d'autres, les champignons, etc., participent au recyclage, quoi. Le terme de déchet n'existe pas dans la nature. Ouais, il n'y a pas de déchet. Tout est utilisé. Voilà, c'est un cycle de la. J'ai pas le mot, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard une fois qu'on aura fini la sortie, comme d'habitude. Et donc, par exemple, une des solutions qui peut être faite quand on trouve un grand capricorne, quand il y a du grand capricorne, c'est de par exemple, de détêter l'arbre, on le verra peut-être si on repasse là-bas, hein, détêter l'arbre de manière à garder ce qu'on appelle la chandelle. Et là, il risque beaucoup moins de tomber. Et on permet quand même au grand capricorne de continuer à se reproduire et de jouer son rôle écologique fondamental.
Alors, comment on là ?
C'est le gomme-mouche noir. Alors, le gomme-mouche noir, il niche pas chez nous. Il est en ce qu'on appelle en halte migratoire. C'est-à-dire, comme c'est un petit oiseau qui va aller après en Afrique subsaharienne, il a besoin de faire des haltes pour faire des réserves de graisse, pour pouvoir après faire son long voyage. Et donc on l'a à l'automne chez nous, on l'a pendant 3 semaines, 1 mois, et puis après il s'en va. Et puis il y a le rouge-gorge aussi qu'on entend.
C'est le rouge-gorge.
Le rouge-gorge, c'est celui qui a le petit piaillement très aigu là, très sec.
Oui, c'est celui qu'on entend là. On n'entend plus le gomme-mouche.
Il avait aussi un peu le même cri, mais moins aigu, c'est ça ?
Oui.
Après, c'est vraiment si à l'oreille, tu as des conseils. C'est chaque personne. Voilà, et chaque petit, il faut bien
que tu. Là, vous entendez les choucas là. Ces petits cris. Ils communiquent beaucoup entre eux. Alors. Il faut savoir qu'il y a des oiseaux qui chantent. Alors, quand ils chantent avec un chant très, très typé, c'est pour séduire les femelles, c'est souvent les mâles. Hein. Ils séduisent les femelles et ils délimitent leur territoire avec, comme une barrière sonore. Après, ils ont des multitudes de cris très différents. Alors, il y en a qu'on connaît certains, mais d'autres qui sont plus rares, qui servent à communiquer entre eux, entre les parents et les jeunes, pour signaler qu'il y a un prédateur qui est dans le ciel ou un prédateur qui est au sol, enfin, toutes sortes de choses. Et donc puis il y a des oiseaux, par exemple, on va dire que le moineau, on ne différencie pas ce qui est des cris et des chants. Mm-hmm. Parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu tout le temps pareil. Ce qui est bien, c'est que chez les oiseaux, rien n'est jamais pareil. Il y a toujours
des différences
et c'est tout à fait étonnant.
Et c'est la fin de cette balade sonore ornithologique à la découverte des oiseaux qu'on peut observer à Albi, une animation proposée par la LPO Tarn le 24 septembre 2020 à l'occasion du festival de rentrée La Cour des Miracles à la Fac Champollion. Merci à Zoé Lemaillot et Evelina Baird de la LPO Tarn pour leurs explications. Merci aux participants et participantes à cette sortie pour leurs questions et observations aiguisées. On en profite pour vous annoncer que la LPO organise mercredi prochain, le 7 octobre, une sortie ornithologique sur la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor, proche de Castres. Si vous souhaitez participer, envoyez un mail à l'adresse animation.tarn@lpo.net. Et puis pour toutes les informations sur la LPO, rendez-vous sur le site tarn.lpo.fr ou bien sur la page Facebook LPO Tarn. Voilà, c'est la fin de cette émission Radio Champeau. Alors si vous souhaitez la réécouter, elle est disponible en podcast sur radioalbiges.com ou bien sur la page Facebook Radio Champeau. Et puis si vous êtes étudiant ou étudiante à la fac et que vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative du campus, n'hésitez pas à envoyer un message directement sur la page Facebook Radio Champeau pour rejoindre la radio étudiante d'Albi. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt sur les ondes de Radio Albiges.
Radio Champeau.
La radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albiges.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champollion.